petit déjeuner, je vois. Bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'a beaucoup touché quand je suis arrivé. J'étais très bien accueilli, mais plus que ça, c'était quelqu'un qui était désigné dans l'aide de notre Église, et même s'il est de l'Assemblée de Dieu. Alors ça montre très bien que le corps de Christ est uni, et nous avons le plaisir de recevoir Claude Bruce ce matin. Claude, est-ce que tu peux venir? C'est lui qui va nous apporter la parole. À qui ne savent pas, Claude, il vient de déménager à La Teste, donc ils vont à l'église baptiste. À l'église Assemblée de Dieu de La Teste, voilà. Mais nous avons le plaisir d'avoir eu sa présence pendant des années ici à l'église et bien sûr d'avoir cette amitié qu'elle a. Merci Seigneur.
À mon âge. Si on ouvre le micro, ça va mieux, non? Ah oui, oui. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà ce que Jésus déclare devant Pilate. Mais il semble quand même que la notion de vérité échappait quelque peu à Pilate. Mais je ne crois pas qu'il soit le seul dans cette situation. La vérité, c'est un problème pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens évitent d'en parler, comme Pilate l'a fait du reste en lançant cette question. Qu'est-ce que la vérité ? C'était peut-être pour lui une manière de mettre fin à une conversation qui le mettait un peu dans l'embarras. C'est la manière qu'utilise un grand nombre de gens qui ne souhaitent pas vraiment être dérangé par ce genre de considération. Cette question, il se la pose, beaucoup se la posent. Qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Comment la reconnaître au milieu de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait? Mais quand il pose cette question, est-ce que c'est vraiment une recherche sincère ou bien est-ce une manière d'esquiver la question qui fâche? On peut remarquer que dans le texte biblique que nous avons lu, cette question est posée dans un contexte tout à fait particulier, puisqu'il est question de vie ou de mort. Les Juifs ont amené Jésus à Pilate pour qu'il le condamne à la crucifixion. On est donc réellement dans un contexte de vie ou de mort. Et moi, il me semble que c'est très significatif. Parce que finalement, être dans la vérité ou ne pas y être, ben c'est réellement une question de vie ou de mort, rien de moins. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'opinion, non, pas du tout. La vérité, elle est associée à la vie. Et l'erreur ou le mensonge, bien, sont associés à la mort. D'où l'importance de savoir où on en est exactement par rapport à la vérité. On ne peut pas se contenter d'être approximatif dans ce domaine-là, en matière de vérité. Nous vivons, c'est vrai, dans une société dans laquelle le mensonge est roi. Oh, vous l'avez constaté, hein, c'est pas nouveau, c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, on nous ment dans toutes sortes de domaines. Je ne fais aucune allusion politique dans mes propos, mais globalement, on nous trompe constamment. On nous raconte constamment des histoires. On nous mène constamment en bateau. On évolue dans une telle ambiance de mensonges qu'on ne sait plus qui croit ou quoi croire. C'est vrai que le mensonge fait un peu partie de la nature humaine. Et ça commence très tôt. Vous l'avez peut-être vu, constatez, vous qui avez des enfants. À un enfant, on doit lui apprendre un tas de choses. Parce qu'il ne sait rien. Donc il faut tout lui apprendre. Mais par contre, pour mentir, il n'y a pas besoin qu'on lui apprenne. Vous revenez de faire les courses, il y a un pot de confiture là qui est ouvert sur le plan de travail. Votre gamin, il en a plein les mains et plein autour de la bouche, et vous lui demandez qui c'est qui a fait ça, et il vous répond c'est pas moi, c'est pas moi. Ça vous fait sourire, mais vous savez bien que c'est vrai. Hein. Un enfant, il n'y a pas besoin de lui apprendre à mentir, pas du tout. Et remarquez, ça vous serait difficile de lui apprendre à mentir, parce que vous ne mentez jamais. Bon, ne me répondez pas. Évidemment, c'est un exemple amusant que je vous donne. Ça nous fait un peu sourire, mais c'est pas si amusant que ça. Parce que finalement, l'enfant, il ment et il grandit dans le mensonge. Il grandit au milieu de gens qui mentent. Et un jour, lui aussi, va se poser la question, qu'est-ce que la vérité? Où donc est la vérité? Et puis, voyant tant de mensonges autour de lui et en lui-même, finalement, il va esquiver cette question. Cependant, le mensonge le plus grave, c'est le mensonge qui est à caractère religieux. Celui qui entraîne les gens à fonder leur foi sur des raisonnements qui sont faussés. Alors, on peut peut-être relativiser en parlant de mensonge ou d'erreur. Parce que l'erreur, elle est involontaire, alors que le mensonge, il est pratiqué à dessein, n'est-ce pas? Le mensonge ou l'erreur, si vous voulez, sur le plan religieux, ça c'est grave. C'est grave et en plus de ça, c'est assez souvent que le mensonge ou l'erreur sont plus séduisants que la vérité. Parce qu'en fait, le mensonge, c'est la vérité qui est arrangée. Et sur le plan religieux, sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a qui s'amusent, enfin, je ne sais pas si c'est un amusement, mais à transformer la vérité pour lui donner un aspect plus sympathique, plus acceptable, plus agréable, moins dérangeant en tout cas, ce qui correspond tout à fait à l'aspiration du cœur humain. Dans la deuxième épître à Timothée, le chapitre 4, le verset 3, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Le rejet de la vérité amène finalement à des aberrations. Celui qui va rejeter la vérité va le faire au nom de ses raisonnements, au nom du bon sens, n'est-ce pas? Eh bien, par ailleurs, il va croire ou accepter à peu près n'importe quoi. Comme le dit le texte que nous venons de lire, il rejette la saine doctrine, la vérité, mais il se tourne vers les fables, c'est-à-dire vers des choses totalement extravagantes. Vous savez ce qu'on trouve dans les fables? Un corbeau qui fait la causette à un renard. Bon, on en voit tous les jours des corbeaux et des renards qui parlent, n'est-ce pas? Bon, mais ça, ce sont les fables. Eh bien, celui qui rejette la vérité au nom du bon sens, bien sûr, il ne va pas croire à la Bible. La Bible. Mais il va accepter de croire des choses aussi aberrantes que ce que l'on trouve dans les fables. Il va croire des fables, sans prendre même la peine de vérifier quoi que ce soit, n'est-ce pas? Non. Il refuse la vérité, il refuse la saine doctrine, peut-être parce qu'elle est un peu dérangeante, mais il va accepter les fables. Et parmi ceux qui rejettent la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, il y en a beaucoup qui croient dans les voyants. Ah oui, les voyants, c'est à la mode. C'est pas nouveau, hein ? Pas nouveau. Madame Soleil, vous avez peut-être entendu parler de Madame Soleil, vous qui avez un certain âge, les jeunes peut-être pas, mais quoique. Eh bien, cette Madame Soleil, c'était une voyante de renom que l'on voyait à la télé, que l'on entendait à la radio, qui était consultée par beaucoup d'hommes politiques. Et parmi ses clients, elle avait un monsieur Georges Pompidou. Vous avez entendu parler de monsieur Georges Pompidou ? Oui, donc on est de la même planète, ça va, hein ? Voilà, c'est l'ancien président de la République. Et les prédictions de cette Madame Soleil, elles étaient publiées dans un journal qui existe toujours, qui s'appelle France Dimanche. Et justement, l'avant-veille du décès du président Pompidou, France Dimanche publie les prédictions de Madame Soleil. Ça, vous pouvez encore le vérifier sur Internet. Concernant la santé du président, dont tout le monde sait et voit qu'il était très gravement malade, ceux qui s'en souviennent, il avait une tête, le pauvre homme, n'est-ce pas ? Mais pour Madame Soleil, ce n'était pas grave. C'était simplement l'opposition de Mars et de Neptune. Vous voyez ? Il y en a qui ne croient pas à la vérité, mais ça, ils le croient. Hein ? Ils le croient. Et alors, ces prédictions ont été publiées dans France Dimanche. Et il n'y a aucun risque grave. Aucun risque grave. C'était ses paroles. C'est ce qu'elle affirmait. Le surlendemain, le président Pompidou était mort. Le surlendemain. Madame Soleil n'a jamais précisé si c'était la faute de Mars ou de Neptune. Hein. Elle n'a rien dit. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'après cette bévue monumentale, hein, elle a continué brillamment sa carrière. Et elle a eu toujours pour clients de nombreux hommes politiques. Elle s'était plantée, mais alors d'une manière minable. Mais ça fait rien. Ça fait rien. On rejette la vérité, mais on accepte de croire des fables au nom du bon sens. Mais où est le bon sens dans ce domaine-là ? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Pas plus tard qu'hier, je voyais à la télévision, dans un reportage, une dame qui allait prendre son café tous les matins, dans un bistrot là, et qui disait « Je viens ici tous les matins pour lire mon horoscope. Je ne pourrais pas vivre sans ça, disait-elle. C'est incroyable. C'est incroyable. L'horoscope, c'est la pire ineptie qui puisse exister, n'est-ce pas ? C'est une somme de bêtises monumentales. Et les gens qui rejettent la vérité, ils croient ces choses-là dures comme fer. Dures comme fer. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate. D'autres demandent où est la vérité ? Et c'est vrai que face à la diversité des croyances, face aussi à la sincérité des pratiquants, parce qu'on ne peut pas mettre ça en doute, amené à se poser cette question. Enfin, où elle est, la vérité ? Il y a sur la Terre plusieurs milliers de religions, avec pas autant de dieux, mais plus de dieux encore, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, n'est-ce pas ? Alors, on comprend que certains se posent la même question que Pilate a posée. Qu'est-ce que la vérité ? Où donc est la vérité ? Mais beaucoup ne prennent pas forcément le temps d'attendre la réponse, surtout quand ça va bien. Ils la chercheront plus tard, s'ils ont le temps, n'est-ce pas ? Et cette vérité leur apparaît finalement comme étant un peu secondaire. La vérité pour eux, c'est ce qu'ils ont dans l'assiette, c'est d'avoir du boulot, c'est d'avoir la santé, c'est de vivre, quoi. C'est de vivre. Peut-être ont-ils peur de se retrouver face à la vérité. Parce que la vérité, elle existe forcément. Il y a forcément une vérité. Forcément une vérité sur Dieu. Mais aussi une vérité sur l'homme. sur nous-mêmes. Et Dieu veut que nous connaissions la vérité. C'est ce qui est écrit dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 3. « Cela est bon, dit-il, et agréable, devant Dieu notre Sauveur, qui veut, Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance, et encore moins dans le mensonge ou dans l'erreur. Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et je veux le répéter, c'est une question de vie ou de mort. Et en plus de cela, une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Je dois donc m'en préoccuper. Mais comment faire? Où est-elle, la vérité? Et puis certains nous disent, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs vérités? Mais non. La vérité, c'est un singulier. C'est une unité, c'est un tout. C'est un tout composé, c'est vrai, composé de plusieurs éléments, c'est exact, mais elle est unitaire. C'est la vérité et non pas les vérités. Et ça, ça ne concerne pas seulement le domaine religieux ou spirituel. Tout événement, quel qu'il soit, possède sa vérité. On pourrait dire sa seule vérité. Concernant un fait précis, ben, il n'y a qu'une seule version vraie des choses, donc une seule vérité. Vous savez que quand il y a un accident, il faut avoir plusieurs témoins pour rassembler tout ça, pour connaître la vérité. La vérité, elle sera peut-être vue d'une manière plus ou moins complète, en fonction du témoin, en fonction de sa position par rapport aux faits concernés, mais même connue partiellement. Ben, chaque fragment de cette vérité doit correspondre à l'ensemble. Chaque élément qui compose la vérité doit être vrai. Sinon, ben, il ne s'agit plus de la vérité. La vérité sur Dieu, elle est forcément unique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, vous pouvez amener toutes sortes d'arguments de Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Cette vérité sur Dieu, elle peut m'échapper en partie, mais ce que je prétends, moi, connaître de cette vérité doit être conforme à l'ensemble de cette vérité. Et pour cela, eh bien, il faut que je sois certain de la source de ce que je prétends être ma vérité, la vérité. Qu'il y ait une difficulté à trouver la vérité sur Dieu, ça c'est une évidence. Même la Bible en parle. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 26, il est dit, il, c'est-à-dire Dieu, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Dieu n'est pas loin, mais il faut le chercher. Il faut le chercher, et il est même dit qu'il faut s'efforcer de le trouver, et il est même parlé de tâtonnement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est aussi ce que disait Jésus, en d'autres termes, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Il disait ceci, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » La vérité, elle ne s'impose pas à moi. Il y a un effort personnel que je dois faire pour la trouver. Il faut que je prenne sur moi, parce que demander, ben, ce n'est pas toujours facile. Chercher, encore moins. Et aller frapper à une porte sans savoir ce qui va se passer quand elle va s'ouvrir, ben, c'est encore plus difficile. Mais il faut que je le fasse, parce qu'il faut que je connaisse la vérité. Alors quelques-uns disent, ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'une d'une connaissance un peu approximative, d'une demi-vérité. Il y en a même qui disent, vous savez monsieur, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. À chacun sa vérité. Si la sincérité suffisait, on pourrait effectivement croire n'importe quoi, à condition de le croire sincèrement. C'est ce qu'on voit autour de nous. Il y en a qui croient vraiment des choses qui nous font tomber sur le derrière. Mais oui, il le croit sincèrement. Mais ça ne suffit pas de le croire sincèrement. Ce qu'il faut croire sincèrement, c'est la vérité. Alors comment savoir si je suis dans la vérité? Voilà ce que disait Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit « ta parole, c'est une vérité parmi d'autres ». La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle ne la contient pas seulement, mais elle est la vérité. La vérité, c'est sa nature, c'est son essence même. Je ne peux donc pas prétendre connaître la vérité si ma foi et mes convictions ne sont pas fondées sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la connaissance dont je parle ici, ce n'est pas une connaissance imaginaire, c'est une connaissance réelle, une connaissance du cœur. Un jour, il y a une dame qui m'a dit « Monsieur, moi, la Bible, je la connais par cœur. » Ben, je lui ai dit « C'est facile, récitez-la. » « Ben oui, hein ?» Elle la connaissait par cœur. « Récitez-la. » Alors, j'étais un peu embarrassé. Ça arrive qu'on peut s'embarrasser une dame, quand même. Alors, non, mais, hein. Alors, elle dit « Bon, il est écrit. » Ben oui, justement, vous la connaissez par cœur. Elle me sort « Il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. » Je vous assure. Et madame, je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais c'est pas la bonne. Parce que c'est pas signé Jésus, ça. C'est signé la fontaine. Elle était tout embêtée, n'est-ce pas? Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il y en a qui s'imaginent. Non, mais il faut être plus sûr que ça. Ta parole, c'est la vérité. Et il ne faut pas prétendre qu'on la connaît. Vous savez, monsieur. Oui, non. Je dois connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ma foi et mes convictions doivent être fondées sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais il y a un autre point important, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30, où il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, « Plusieurs crurent en lui. » Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il ajoute, « Vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité, lorsque je la découvre et que je la crois, elle change ma vie. Elle me change. Elle me transforme. Elle me délivre. Elle m'affranchit. Elle m'affranchit du péché et de toutes les misères morales dont souffrent les hommes. Elle m'affranchit et elle fait de moi un être libre. Et ça, je le sais, non pas parce que c'est là, mais parce que je le vis. Et là, on n'est plus dans le domaine de la pensée, on est dans le réel, on est dans le visible, on est dans le vécu. La vérité, lorsque je la découvre et que je l'accepte, elle fait de moi tout simplement une nouvelle créature. Il y a un avant et il y a un après. Celui qui accepte la vérité n'est plus jamais le même. Sa vie, elle est débarrassée d'un tas de choses mauvaises et néfastes. La place est faite pour recevoir une vie nouvelle, une vie purifiée et une vie heureuse. Ta parole est la vérité. Et la vérité, elle se vérifie par son efficacité. Mais comment se fait-il que la vérité soit si efficace? Tout simplement parce que la vérité, c'est également quelqu'un. Jean, évangile, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, c'est Jésus. Ah, vous allez dire, mais vous venez de dire que la vérité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, vous dites que la vérité, c'est Jésus. Mais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que Jésus, c'est la parole faite chair, la parole incarnée. Ça, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, voilà la vérité. La vérité chez Jésus. Jésus, la parole faite chair. C'est la parole de Dieu qui est venue à nous en Jésus-Christ. Mais en quoi, direz-vous, Jésus est-il la vérité? Comment et pourquoi résume-t-il toute la vérité en lui-même? Eh bien, avant de vous l'expliquer, je voudrais juste vous le montrer. Voilà, il y a une photo qui va apparaître. C'est ça. La vérité, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est la croix. Bien sûr, ce n'est pas une croix comme celle que vous voyez qui est vide, n'est-ce pas? Non, il y avait quelqu'un sur la croix. C'était Jésus qui était sur la croix. Je n'ai pas voulu vous montrer une croix avec une représentation de Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est ça la vérité. Jésus sur la croix, c'est la révélation de la vérité d'abord concernant Dieu. La vérité sur la nature divine. La vérité sur ce que Dieu est vraiment. Et on s'aperçoit rapidement que c'est très loin de ce que nous imaginons ou de ce que certains nous ont raconté, très loin de l'image du bon Dieu dont on entend parler, n'est-ce pas ? La croix, elle nous révèle Dieu d'une manière parfaite. Elle nous révèle la vérité sur Dieu. Un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait, mais aussi un Dieu plein d'amour. Et quand je considère la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, il y a, c'est vrai, un aspect de Dieu qui peut m'échapper. Parce que pour beaucoup de gens, la croix, c'est un échec. C'est une mort. Vas-y, mais c'est un échec. Non, non. La croix, elle a été suivie par la résurrection. Il y a la croix et il y a la résurrection. Et la vérité, elle est dans cette croix, mais elle est aussi dans la résurrection. Et la résurrection nous révèle la puissance de Dieu, une puissance glorieuse, une puissance invincible, même face à la mort. Oui, la croix nous révèle la vérité sur Dieu. Voici ce que le prophète Ésaïe nous disait au chapitre 53 et au verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. » Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La croix révèle la vérité sur Dieu. La vérité sur la sainteté de Dieu. Parce que la croix, c'est le prix du péché. C'est la conséquence du péché. Elle est la démonstration que Dieu ne tolère pas le péché, ne peut pas accepter le péché, parce qu'il est saint. La croix révèle aussi la vérité sur la justice de Dieu. Parce qu'elle est le résultat de la sentence divine à l'égard du péché. Une sentence sans appel. C'est Paul qui disait dans les Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est ça la vérité sur Dieu, la vérité sur la sentence divine par rapport au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il y a un mais. Heureusement qu'il y a ce mais. Heureusement qu'il y a ce mais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la vérité. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est aussi la vérité. C'est le complément de cette vérité. Parce que Dieu nous a donné un moyen d'échapper à cette condamnation, en nous donnant un sauveur, en la personne de son Fils éternel, Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Son amour, Dieu l'a manifesté pour venir au secours de ceux qui subissent la malédiction du péché, non seulement dans leur âme, mais aussi dans leur corps et dans leur vie tout entière. Voilà la vérité sur Dieu que la croix nous révèle. C'est que Dieu est saint et que rien ni personne d'impur ou de souillé ne peut subsister dans sa présence. C'est que Dieu est juste et qu'il n'est pas possible de négocier quoi que ce soit avec lui. Mais c'est aussi que Dieu est amour et qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné pour nous son Fils unique, afin que par lui nous puissions être sauvés. Mais Jésus sur la croix, c'est aussi la révélation de la vérité sur nous-mêmes, sur notre nature profonde. Elle met en évidence ce que nous sommes réellement. Nous sommes dans un siècle qui fait le culte de la personnalité, n'est-ce pas ? Alors tout le monde, la femme veut être l'égale de l'homme, etc. Tout le monde est beau, tout le monde est grand, tout le monde est magnifique. La vérité, c'est la Bible qui nous le dit. Et que ce soit homme ou femme, que vous les mettiez côte à côte, ou la vérité, c'est qu'ils sont pécheurs. La vérité, c'est l'esclavage qui les caractérise, n'est-ce pas ? Eh oui. Et la croix nous révèle cette vérité sur nous-mêmes. Une vérité que l'on a un petit peu de la difficulté à accepter. Elle affirme haut et fort que nous ne pouvons pas échapper au jugement de Dieu si nous restons dans nos péchés. Elle est la preuve que le salaire du péché, c'est bien la mort. Elle est la révélation de ce qui nous attend si nous restons dans nos péchés et que nous n'acceptons pas d'être éclairés par la vérité. La vérité, elle est là, devant nos yeux. À nous de savoir ce que nous voulons en faire, parce que Dieu nous laisse libres. Ou nous pouvons continuer à nous voiler la face en prétextant que nous ne la voyons pas. Ou alors, une bonne fois pour toutes, nous nous laissons éclairer par elle. La vérité, elle existe. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Et cette vérité, elle crie que nous sommes perdus. Elle crie que nous avons besoin d'être pardonnés. Elle crie que nous avons besoin d'être purifiés et d'être délivrés de nos péchés. La vérité, elle nous montre tel que nous sommes. Et c'est pas si beau que ça, finalement. C'est moins beau que ce que le monde prétend que nous sommes. C'est beaucoup moins flatteur que l'idée que nous avons de nous-mêmes. Mais cette vérité, elle crie plus fort encore que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver. Elle nous fait découvrir ce que Dieu veut faire pour nous et ce que Dieu veut faire de nous. La vérité, elle est terrible dans un sens, mais elle est merveilleuse tout à la fois. La vérité, elle nous blesse, c'est vrai. Quand on la prend comme ça, en pleine figure, s'entendre dire que je suis pécheur, que je suis misérable. Mais au fond, on le sait bien. Et la vérité nous le dit. Elle nous blesse par cela. Mais c'est pour mieux nous guérir. La vérité, elle nous humilie. Mais c'est pour mieux nous relever. Et nous relever définitivement de notre misère morale et spirituelle. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et en même temps, la vérité, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Quand je rencontre le Christ, je ne peux plus me faire d'illusions sur moi-même. Je prends conscience de mon péché et de ma misère, puisque Jésus a dû mourir à ma place. Il a dû donner sa vie pour me sauver. Là, il n'y a plus de doute possible sur ce que je suis, c'est-à-dire un pécheur. Mais il n'y a plus de doute possible non plus au sujet de l'amour que Dieu a pour moi, puisqu'il a accepté que Jésus se sacrifie pour que je sois sauvé. Jésus, il est la vérité. Quand je le rencontre, je découvre Dieu tel qu'il est. Et en même temps, je me découvre tel que je suis. Et je découvre le plan que Dieu a mis à exécution pour que d'une part, je sois sauvé de mon péché et que je devienne son enfant pour commencer avec lui une vie nouvelle. Vérité, vérité, où es-tu ? Eh bien, maintenant, nous le savons. Nous savons où elle est, là. Voilà la vérité. Elle est en Christ, la vérité. Et c'est par la Bible, parole de Dieu, que j'en prends connaissance. Et je voudrais vous dire, si ce matin quelqu'un n'a pas encore accepté la vérité, n'a pas encore accepté de croire dans cette vérité, je vous en supplie, acceptez-la, recevez-la et vivez-la. Parce que c'est le début, ce sera le début pour vous d'une vie nouvelle et merveilleuse, parce que seule la vérité peut changer notre vie et nous rendre heureux pour toujours. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu n'as pas voulu que nous restions dans l'ignorance. Tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous avons ce livre, nous avons ton livre, nous avons ta parole, nous avons la Bible, et c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui nous révèle Jésus-Christ, c'est elle qui nous révèle ton amour, mais aussi ta puissance, celle qui peut changer notre vie et faire de nous tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants qui sont ici aient été encouragés par cette parole et que ceux qui peut-être n'ont pas encore fait d'expérience réelle avec toi puissent le faire dès aujourd'hui. Nous prions pour que la vérité éclaire les cœurs, pour que ta parole éclaire les cœurs par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen.